radio. Okapi.
Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter contre la discrimination à l'égard des albinos? Samuel Moulumba, juge au tribunal du commerce de Matete, sera l'invité d'Okapi Service dans quelques instants. Nous allons également recevoir Yann Mambo, coordonnateur de la structure Fièrement Ndundu. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Quel leadership pour un Congo émergent? Ce sera le deuxième thème de cette émission à partir de 11h05. Heure de Kinshasa, Alain Manzenza, docteur en leadership, stratégie et innovation, professeur à l'université des Trinity Saint David College à Londres, sera notre invité à partir de 11h05, heure de Kinshasa, dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Pour participer, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission que présente jeudi Daniel Kachama. Polydor Bansunga à la mise en onde. Excellente condition d'écoute de ce magazine de la vie au quotidien.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Okapi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Okapi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie, de tous les jours, de la vie au quotidien. Merci de nous écouter partout. Vous êtes à travers la République et même en dehors de nos frontières. Merci d'être branché sur www.radiookapi.net. Les personnes atteintes d'albinisme sont souvent victimes de nombreuses formes de discrimination. C'est là la suite des préjugés dont ces personnes font l'objet dans la société. Dans certaines communautés, les albinos sont en danger, ils sont tués, mutilés ou attaqués à cause de certaines croyances et mythes erronés qui les entourent. Conséquence, bon nombre d'entre eux sont victimes des violences et exclusions sociales qui les maintiennent dans la pauvreté, dans la précarité. Eh bien, comment lutter efficacement contre la discrimination à l'égard des personnes albinos? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Samuel Moulumba, juge au tribunal des commerces des Matete, et puis Yann Mambo, coordonnateur de la structure Fièrement Ndundu. Les deux seront en ligne dans quelques instants. Vous avez des questions. Vous êtes personne albinos. Racontez-nous comment ça se passe dans votre province. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes buté au quotidien? Eh bien, vous pouvez partager avec nous au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Monsieur Samuel Moulumba, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes juge au tribunal des commerces de Matete. Vous êtes aussi une personne albinos. Alors, dites-nous quelles sont les formes de discrimination qui sont manifestées à l'égard des personnes albinos en République démocratique du Congo.
Je vous remercie en tout cas de me recevoir dans votre émission ce matin. Au fait, les discriminations, on a plusieurs, le rejet, l'ostracisation, la mise à l'écart, un regard assez malsain de la société envers des personnes vivant avec albinisme. Et ça se traduit naturellement par le fait que la personne qui vit avec albinisme se renferme en elle-même, hein, à cause de tous ces cette forme de discrimination, même au milieu professionnel, ça se vit aussi. Donc je peux vous en assurer.
Oui, et pourquoi, qu'est-ce qui est à la base de cela?
Comme vous l'avez dit dans votre introduction, la première chose, ce sont les croyances mal ficelées. C'est-à-dire que dans certains coins de la République, surtout à l'est de notre pays, l'albinos est vu comme une personne à part. Il y a des croyances qui font croire que les parties de son corps peuvent servir à des rites mystiques. Qui sont des personnes qui peuvent vous apporter par leur partie, leur membre de corps, des richesses, de la protection. Et dans une autre partie du pays, ce sont pratiquement des sous-hommes, comme chez nous des fois au Kassai, où certains ont dû vivre le fait que être albinos ne leur permettait pas de faire partie de la société. Donc, ce sont pour la première, la première option, c'est le fait qu'il y ait des croyances qui ont été imposées par nos coutumes et qui malheureusement se perpétuent jusqu'à aujourd'hui.
Donc, c'est dans quelle partie du pays où les gens croient que les parties du corps d'un albinos peuvent apporter la chance, ça peut servir aux fétiches, etc.
Généralement, c'est à l'est du pays, quand vous prenez tout l'est du pays, parce que il y a une forte, une forte acculturation avec la Tanzanie, le Mozambique et toutes ces parties aussi de l'Afrique qui ont aussi ce même système où l'on pense que l'albinos, par les membres de son corps, peut vous accorder de la force mystique, de la protection, de la richesse, bref, tout ce que vous voudrez, quoi.
Et il y a eu beaucoup de personnes albinos qui ont perdu leur vie, surtout dans la partie est de l'Afrique, à cause de ces genres de croyances.
Exactement, il y en a. Malheureusement, vous savez que les statistiques dans notre pays sont difficiles à faire des fois, mais quand vous prenez à Kisangani, il y a une étude qui a été faite, mais malheureusement, la dernière étude sur la situation, c'est en 2018 avec l'OFPRA, c'est-à-dire un office français qui avait quand même posé des statistiques sur la mort des personnes vivant avec albinisme qui ont été tuées à cause de cette situation.
Voilà, donc les gens ont des croyances erronées autour de... mais qu'est-ce qui arrive à faire croire aux gens ces genres de choses? Est-ce qu'on peut dire que ce sont les féticheurs qu'ils vont voir? Qu'est-ce qui explique ces genres de croyances, d'après vous?
Je peux vous dire que lorsque des croyances s'établissent de génération en génération, si elles remontent dans les années avant l'indépendance, elles restent ancrées comme des coutumes. Et les coutumes, je ne veux pas vous faire un dessin, c'est pratiquement la base même de l'action des personnes dans une société. Nous pouvons être une nation, nous pouvons être un peuple, nous pouvons être appelés tout ce que vous voulez, mais chacun, lorsqu'il se retire au niveau du clan, de la tribu, du royaume, si on peut prendre ça ainsi, a des coutumes et croit en ces coutumes-là. C'est une transmission presque génétique de ce que nous voulons faire, de ce que nous sommes. Et ces croyances, remontant dans les années, même avant la colonisation, se sont perpétuées et les gens y croient, malheureusement.
Bien. Alors, par rapport au rejet, là, vous voulez beaucoup plus parler au niveau familial?
Exactement. J'ai beaucoup eu de chance puisque j'ai évolué dans une famille qui m'a regardé tel que je suis, qui n'a pas fait de différence. Et je remercie beaucoup mes parents, mes frères et sœurs par rapport à cela. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas cette faveur-là, puisque dès que l'enfant naît, la maman est la première personne à rejeter cet enfant. parce qu'elle ne croit pas que un enfant vivant avec albinisme est une personne tout à fait normale. D'ailleurs, l'une des conventions ratifiées par la RDC ne traite pas généralement l'albinisme comme un handicapé, mais plutôt ce sont les conséquences liées à l'ophtalmologie et à la peau qui crée certains handicaps. Mais l'albinos en lui-même n'est pas un handicapé. Mais malheureusement, lorsque les personnes naissent dans ce genre de famille, on les place déjà non seulement sur les rangs des handicapés, mais des personnes non viables. Vous voyez un peu. Et ce rejet commence par la maman, le papa aussi, et ça va de suite. Si déjà ceux qui vivent avec vous vous rejettent, vous imaginez ce que peut faire la société.
Dans certaines familles, on considère un albinos comme une malédiction, vous voulez dire.
Exactement. Je pense qu'il y a eu une histoire en 2020. Il y a un monsieur, bon, on avait caché son nom, mais qui, au niveau de sa famille à Mujimaï, avait dû fuir sa propre mère qui s'apprêtait à pouvoir l'abandonner au milieu de la forêt pour qu'il puisse être dévoré par un animal sauvage. Vous voyez un peu cela. Ça ressemble à de la fiction. Mais ce sont des réalités.
C'était un jeune garçon ?
Oui, c'était un jeune garçon. Je pense qu'il avait échoué au marché de Dibindi en Mbujimaï et qui racontait son histoire. Plusieurs fois, on a tenté de le mettre à mort. Ça n'a pas tenu. Et sa mère traverse avec lui au bord de l'autre côté de la rivière pour pouvoir
l'abandonner.
C'est dans la nuit qu'il fuit.
Donc, elle voulait l'abandonner dans la forêt pour qu'il soit
exactement,
dévoré par les
exactement.
Bêtes. Voilà, donc ça, c'est des choses qui arrivent au niveau de la famille. Et vous, comment ça s'est passé dans votre famille lorsque, bon, avec vos frères et vos sœurs, comment ils vous ont traité?
Ben, d'abord, je peux vous dire que je suis devenu conscient de mon albinisme qu'en sixième primaire. C'est-à-dire que puisque les amis en ont commencé à parler, j'ai eu conscience que, ben, effectivement, l'albinos c'est celui-ci ou cela, mais dans ma famille, rien n'a été évoqué dans le sens où me mettre à part ou me surprotéger, mais non. On m'a fait seulement comprendre que tu avais une peau fragile, puisqu'effectivement, l'albinos a une peau fragile vis-à-vis du soleil. Mais à part cela, tout était normal. Papa, maman, mes frères et sœurs m'ont traité normalement. Et ce qui m'a protégé, qui m'a donné aussi la force de pouvoir travailler, parce que ceux qui vous reçoivent en premier, s'ils vous aiment, le reste est un peu plus facile à affronter, contrairement à d'autres, bien sûr.
Et au niveau de l'école, l'école primaire, secondaire, comment ça s'est passé avec les amis en classe?
Oui, j'ai été au groupe scolaire du Mouamba et en tout cas, on me l'a jamais fait sentir aussi, puisque il y a une certaine éducation aussi dans certaines écoles. Lorsque les élèves sont bien formés, lorsque l'éducation est bien donnée, qui viennent des horizons assez matures, si je peux utiliser ce terme, je n'ai pas senti cela en tout cas. Même mes amis avec qui nous avons grandi, il y en a des uns qui est en face de moi, ne me l'a pas fait sentir en tout cas. Nous sommes, c'est-à-dire que j'ai été, la providence m'a placé dans une situation dans laquelle où je n'ai pas pu ressentir les effets que lorsque j'ai pu en âge adulte affronter la société.
Et vous avez bien évolué jusqu'à devenir magistrat.
Bon, ça, ce sont les mérites personnels. Naturellement, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai réussi. Et voilà que je suis ce que je suis dans la société et prêt à la servir aussi, lui rendre ce qu'elle m'a donné aussi.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Platini est en ligne depuis Mbandaka, Vianney de Mahagui. Platini, bonjour.
Jordi, bonjour. Je salue l'invité.
On vous écoute.
Voilà, je dis merci beaucoup. Je ne sais pas si l'invité est aussi albinos, parce que la thématique des jeux liée à cette thématique.
Oui, oui, l'invité voilà. Est aussi une personne
albinos. Albinos, voilà. Merci beaucoup parce qu'il est albinos. Voilà, je le salue aussi en passage. Je dis, moi, je salue cette thématique parce que la thématique d'aujourd'hui est vraiment acceptable. Je dis, j'ai quelques remarques que je... pas que j'ai des témoignages, que je peux quand même témoigner ici de la ville de Mbandaka. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit la discrimination entre les albinos, dans les milliers, partout là où on est. Mais aujourd'hui, moi, depuis que je suis là, parce que je veux vous dire une chose, que quand j'étais étudiant, donc j'étais à G1, Nous avons un camarade là, étudiant, hein. Mais il est, lui, avec sa façon d'être au niveau de l'histoire, ça pose toujours un certain problème. Lui-même, il se sent discriminé sur le terrain. Il se sent très, très mal à l'aise quand on est avec les enfants. Quand on est dans un groupe, lui-même se sent très, très, très mal. Alors, ça, c'est un témoignage. Deuxième témoignage aussi. À l'époque des élections de 2011, ici de Bamaka, il y avait un albinos. Il se prétendait comme un candidat député provincial, mais à la fin des comptes, lui-même se sent alors retiré encore sa candidature. Il dit que non, moi, à mon niveau, je n'ai pas de couleur, parce que pour personne, je n'ai pas de couleur. Il s'est retiré lui-même. Alors, ce que moi, je veux quand même vous dire, je dis, depuis que je suis né, depuis que je le Congo à Congo, je n'ai jamais vu un député national qui est abîmé, soit comme on appelle Ndounou. Je n'ai jamais connu un gouverneur qui est comme on appelle Ndounou. Je n'ai jamais vu un attendu, soit un ministre du gouvernement central, Abinos ou soit Ndounou. Alors, la question que moi je vais poser à l'invité, il est Abinos aussi, comme la thématique le dit. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui essaie de mettre à l'état? Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui porte sur le peuple pygmée. Parce que le pygmée aussi étudie dans les différentes supérieures ou sortes universitaires gratuites. Parce qu'ici, dans la ville de Manaka, il y a aussi des centres que le pygmée étudie gratuitement. Mais les Abinos payent. Même au niveau de l'université, les Abinos payent. Mais si vous allez au niveau de l'université, il y a au moins 5 ou 3% de l'Abinos ici, dans la ville de Manaka. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont nombreux, mais ils ne veulent même pas étudier. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui peut essayer de mettre l'Abinos en valeur? Soit c'est postulé comme gouverneur de province, soit c'est postulé comme député national provincial, ou soit il peut aussi être nommé comme un ministre national. Voilà un peu ce que je voulais avoir un peu l'intéressement tout l'invité, parce que c'est lui qui est censé vraiment nous répondre.
Par rapport merci Platini. Vianney, vous êtes à Maragui, bonjour Vianney n'est plus là. Bien, Samuel Moulumba, qu'est-ce que vous pouvez dire à Platini de Mbandaka?
Vraiment, je remercie Platini pour son intervention. Premièrement, il a parlé de l'albinisme, de l'albinos qui se renfermait. Ben, vous savez, lorsque que vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas viable, vous n'êtes pas capable, généralement, on commence plus à se regarder comme la société nous regarde, au lieu de se regarder comme nos ambitions le veulent. Et je comprends, peut-être certainement il a subi un matraquage psychologique depuis son enfance, raison pour laquelle cela l'a conditionné sa façon de voir les choses et sa façon de faire les choses. Ben, pour sa seconde demande, vous savez, d'abord par rapport à la loi, il n'y a pas de loi propre ou spéciale dédiée aux albinos. Non, je pense que la seule loi que, au-delà de la Constitution, c'est la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la loi nationale, bien sûr, c'est les personnes handicapées qui, tant soit peu, essayent de gérer la personne vivant avec albinisme. Mais nous avions un temps fait un projet de loi sur les personnes vivant avec albinisme. Nous avons frappé ça et là, mais malheureusement les portes ne sont pas encore ouvertes. Nous avons même contacté la fondation de la première dame, maman Denise Nyakero, mais jusqu'à présent les contacts ne sont pas encore faits, puisque des pays comme la Guinée, il y a l'ancien président Alpha Condé qui avait effectivement promulgué une loi visant à protéger les personnes vivant avec albinisme. Il y a certains pays où il y a des lois spécifiques pour les personnes vivant avec albinisme, puisque dans la loi générale, si on peut parler des personnes vivant avec des personnes handicapées, on frôle la question des personnes vivant avec albinisme, mais on la traite pas en profondeur. Alors que dans une loi spéciale pour nous, on peut retrouver quand même de la matière et une réelle protection des personnes vivant avec albinisme. Donc, sur ce qu'il s'agit de postuler comme député, candidat ministre, nous pensons que ce n'est pas la condition qui vous donne les mérites. Nous devons travailler, nous devons étudier, nous devons prouver effectivement que nous sommes des personnes tout à fait normales par le mérite. Et je crois que toutes ces choses-là, ce n'est pas parce que on est albinos qu'on doit nécessairement les avoir ou les obtenir, mais c'est par le travail qu'on obtient toutes ces choses. Mais je peux vous dire qu'il y a des personnes intelligentes, brillantes dans tous les domaines. Je dis bien chez les juristes, j'en connais des albinos, chez les mathématiciens, j'en connais, il y en a beaucoup dans cette ville qui font preuve, qui sont dans des organisations internationales et qui font la fierté de notre pays en tant que Congolais, mais aussi en tant que personnes vivant avec eux. Il suffit seulement aux autorités d'ouvrir les yeux et il y en aura, vous en avez trouvé un devant vous aussi.
Alors, en revenant au cas de Platini qui parle d'un candidat député provincial, qui a retiré sa candidature tout simplement parce qu'il s'est sous-estimé. Il y a certains qui ont des capacités mais qui se sous-estiment, qui s'isolent. Comment les aider à vaincre cela?
Je crois que c'est un travail psychologique aussi qu'il faut faire sur chacun d'eux. Autant on leur a dit qu'ils n'étaient pas capables, autant il faut leur redire le contraire. Et les exemples sont légions. Je peux vous le dire, lorsque j'ai contacté la première fois la fondation Mouma Texas, m'a contacté, le feu grand frère qui est décédé l'année passée, j'étais sidéré de voir le nombre d'albinos qui n'avaient pas confiance en soi. Et je vous dis que c'est très sérieux. Et il a fallu un discours autre, leur montrer autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et la réussite de certains d'entre nous dans plusieurs domaines de la vie permet aussi à ce que ce joug, ce poids soit enlevé de leur vie. Vous savez, pendant plus de 20 ans, vous matraquez, vous n'êtes pas capable, ce n'est pas du jour ou du lendemain que vous vous relevez. Donc, il faut leur parler tous les jours. Et je proposerais même qu'on puisse placer une cellule de crise ou une organisation qui peut prendre en charge ces personnes de manière psychologique, puisqu'il va de la santé publique et ces personnes ont besoin de cela. Et ça va prendre en charge l'albinos dès son enfance jusqu'à l'âge adulte afin de bien l'insérer dans la société actuelle.
Mais on peut aussi utiliser certaines albinos qui ont réussi leur vie, qui sont mieux positionnés, ils peuvent servir d'exemple aux autres, les encourager et ils peuvent servir d'exemple, comme je l'ai dit.
Oui, mais naturellement, c'est une campagne que nous serons en train de faire au-delà du centre de santé, parce qu'il y a aussi un problème lié à la peau. Il sera aussi question de mettre une cellule psychologique et dans cette cellule psychologique, il y aura naturellement des exemples qui seront proposés. Moi, j'ai toujours regardé de l'autre côté de la rive, à Brazzaville. Il y a l'ancien ministre, je ne sais pas si c'est toujours ministre de la Communication, qui est albinos. Vous connaissez, qui a été aussi qui était aussi directeur, soit adjoint du cabinet, adjoint du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Il y avait un albinos. Donc, il y a des exemples légendaires. Salif Keïta, c'est un exemple, d'ailleurs le meilleur, le premier de tous. Donc il y a plusieurs exemples. Yann Mambo qui sera avec nous, c'est un exemple. J'en connais, on en connaît, qui pourront servir de catalyseur à cette campagne psychologique pour relever le moral dans la vie des albinos.
Est-ce que vous travaillez avec des psychologues dans ce cadre-là?
Il y en a de manière informelle, je peux vous dire, puisque nous avions lancé à un moment, je pense qu'avec Yann aussi, l'idée de créer des albishops. C'était l'idée de l'organisation Plusieurs Couleurs de Yann Mambo, pour lequel il fallait faire des ventes de produits cosmétiques. Alors, on voulait associer des dermatologues et aussi des psychologues. Parce que on pense que en créant des zones besoin de santé, c'est trop dire, mais des cellules dans lesquelles vous retrouvez et le côté physique à soigner et le côté psychologique aussi à traiter. Donc c'était un peu cela. Mais vous savez, tout cela demande des moyens qui, pour l'instant, nous essayons de frapper de gauche à droite. Nous espérons aussi qu'avec votre émission qui est suivie partout, des hommes et des femmes de bonne volonté pourront se joindre à nous dans ce combat.
Bien, on va accueillir Fernand depuis Calémi. Bonjour Fernand.
Bonjour, bonjour Radio Capi, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour aussi à l'invité. Vraiment, je vous suis avec intérêt le débat. Moi, je me pose la question, pourquoi créer des lois pour nos frères, sachant que ce sont nos frères? Vous savez, il y a de ces lois-là, quand nous les créons, ce sont ces lois-là qui arrivent aussi à sous-estimer nos frères. Parce que ici à Calémi, je connais quelqu'un qui est magistrat, il est albinos. Hein? Moi, je ne partage pas avec nos amis qui disent que non, créons des lois pour protéger. Non, ce sont des hommes comme tout le monde. Hein? En créant ces lois-là, ce sont ces lois-là qui sous-estiment les quoi, nos amis.
Fernand, là-bas à Calémi, comment la société traite les personnes albinos là-bas à Calémi?
Ici à Calémi, les personnes albinos sont très bien. Je ne sais pas, parce que moi je connais, il y a un magistrat là qu'on appelle Bofik. Il est magistrat, il travaille très bien avec tout le monde. Je ne sais pas, il y a de ceux là qui disent que non, ce sont des gens comme, pas comme les autres, mais sachant très bien qu'on avait des amis qu'on a étudiés avec eux, ici à Calémi, même à Lubumbashi quand nous étions à l'université à la Kasapa. On étudie avec eux. Ce sont des gens normaux. Hein? Du fait là de commencer à créer des lois, ce sont des histoires là qui fait à ce que les autres sont sous-estimés.
Fernand, c'est parce qu'il y a des discriminations. Dans certains coins, on pense qu'il faut les tuer, les mutiler, on va prendre les parties de leur corps pour faire des fétiches. Ailleurs, ils sont rejetés dans leur propre famille, etc., dans la société.
Ce n'est pas seulement ces gens qui sont rejetés. Il y a même ici, par exemple, dans 35 km de Calémi, il y a les problèmes des toits avant tout. Il y a de ces gens-là qui sont sous-estimés. Même ici à Calémi, dans nos maisons, nos propres familles, il y a de ceux-là, de ces enfants qui sont rejetés en disant qu'ils sont des sorciers. Moi, je pense qu'on a une loi pénale. Quand quelqu'un fait du mal, il faut interpeller par la justice. Au lieu de commencer à créer des lois, oh non, pour des genres de personnes, créer une loi pour... Non, ça c'est un peu vraiment, c'est du passé, c'est ça. Moi, je ne partage pas ces idées-là.
D'accord, merci.
On a une loi. La loi qui nous protège tous. Ce sont des hommes qui sont créés à l'image de Dieu, comme tout le monde. Hein, quand quelqu'un fait du mal, la loi est là pour sanctionner cela. C'est un peu ça, monsieur le journaliste.
Merci Fernand de Calémi. On va donner la parole on va se rendre à Bounia pour donner la parole à Antoine. Bonjour.
Bonjour.
Oui, je veux bien Antoine, on vous écoute.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec mon prédécesseur. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit créer des lois pour nos frères. Hein, personne n'a accepté d'être albinos. Vous voyez, comme les autres disent qu'il n'a pas voulu qu'il soit né dans une famille, à l'ingaz à la locale dans la famille, on a des comparaisons comme ça. Vous voyez, le problème est que nous devons vraiment savoir ce que c'est le capital humain. Surtout nous, les Africains, vraiment, on n'a pas cette notion-là de capital humain. Les albinos, ce sont des capitales humains que nous sommes en train d'écarter, de perdre comme ça. Peut-être il y a des savants parmi eux. On les perd comme ça. Et voilà, quoi. C'est ça le problème. Parce que parmi eux, nous pouvons avoir aussi des grands professeurs. Nous pouvons avoir aussi des savants, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi les écarter? Pourquoi créer une loi? Ce sont des personnes.
Antoine, vous avez suivi, l'invité a parlé de l'histoire d'une mère au Kassai qui a abandonné son fils en plein forêt pour être dévoré par les bêtes féroces, tout simplement parce qu'il est albinos, elle voulait pas de lui.
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est à nous maintenant de s'approprier et de pouvoir, comment je peux dire, de pouvoir sensibiliser, de pouvoir faire voir aux gens ou aux parents qui ont des enfants albinos que ce sont des êtres humains comme tout autre, ce sont des personnes à part d'elles comme tout autre. Et moi, je ne pense pas pourquoi les parents sont frustrés pour cela, parce qu'ils ont des enfants albinos. Donc c'est seulement question de les sensibiliser. Vous voyez ailleurs, dans d'autres pays, en Europe et partout en Occident, on ne voit pas tout ça. Et on considère tout le monde, on sait que c'est un être humain comme tout autre. Et on les considère, on les exploite. Hein? Nous avons des problèmes ici chez nous. Hein? Il y a beaucoup de problèmes, même sécuritaires. Nous avons besoin des militaires. Nous pouvons avoir des militaires albinos, des handicapés. Nous pouvons avoir plutôt des pygmées, comme l'autre a souligné. Nous pouvons avoir des médecins. Hein? C'est le problème seulement de l'exploitation. Le problème de pouvoir comment les utiliser et sensibiliser la population pour ça et les parents qui ont des enfants albinos.
Bien, merci Antoine depuis Bounia. Comment lutter contre la discrimination à l'égard des personnes albinos? Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existait pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Comment lutter contre la discrimination à l'égard des personnes albinos? Monsieur Samuel Moulumba, vous avez suivi les différents auditeurs. À vous la parole.
Merci. J'ai bien suivi Fernand et l'autre ami. J'aurais voulu que le monde soit comme eux, disant, ayant le même regard qu'ils ont, qu'ils portent. Mais Fernand et mon autre ami ne se sont jamais retrouvés dans une position où les personnes sont tuées, des personnes sont mutilées, des personnes sont livrées à la mort, et rien pas à cause de d'autres choses, mais à cause de leur peau. Et l'État a le devoir de protéger ces personnes qui vivent sous ce régime de terreur, de peur et de mort. Je crois que la loi, lorsqu'elle est créée, elle ne vient pas renforcer la discrimination. Non, pas du tout. Elle vient d'abord prévenir, mais ensuite sanctionner les personnes qui vont à l'encontre de cette situation. Il n'y aurait pas eu tuerie des albinos, il n'y aurait pas eu rejet de ceci. Je ne serais pas ici en train de vous parler en cet instant. Mais pourquoi on parle? Puisqu'il y a des abus. Et les abus doivent être sanctionnés. Or, la loi pénale, qui est une loi générale, ne tient pas compte de certaines spécificités. Et si nous nous retrouvons, puisque je suis magistrat, nous nous retrouvons devant un juge avec une loi générale, il y a certaines situations qui vont échapper au juge, qui ne saura condamner une personne au-delà de la loi. Il ne peut statuer qu'en vertu de la loi. Or, lorsqu'une loi spéciale est créée, parce qu'elle tient compte des spécificités qui existent autour du problème à traiter. Donc, je crois qu'une loi est terriblement essentielle parce qu'elle va prévenir, et ensuite, elle va sanctionner. Et lorsque nous regardons les choses de cette façon, nous ne pourrons que encourager l'État à aller dans ce sens-là. Eh bien, si la loi fait son travail dans 10, 20 ans, 30 ans après, on pourra voir si on peut l'amender ou carrément l'abolir. Donc, tout va de l'évolution sur le terrain. Puisque la situation est encore grave et alarmante, puisqu'il y a encore des coutumes qui n'ont pas cessé d'appliquer des actions qui vont à l'encontre même de la dignité de la personne humaine, nous devons créer des mécanismes qui nous permettent à ce que nous puissions arrêter cela. Et le cadre juridique est l'un des premiers mécanismes qui permet à l'État de pouvoir prévenir, mais aussi de sanctionner toute personne qui va s'adonner à de tels actes. C'est mon avis vis-à-vis de leur question.
Bien. Comment lutter contre la discrimination à l'égard des personnes albinos? Déjà, au niveau familial, comment aider ces familles, surtout au Kassai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où il y a encore des préjugés à propos des personnes albinos? Comment aider ces familles à changer de mentalité?
Exactement, je parlais en disant que c'est un problème de santé publique. Dans les différentes maternités, ou bien nous devons enseigner au personnel médical de pouvoir orienter les femmes qui ont des enfants avec qui vivent avec albinisme. Lorsqu'une maman donne naissance à un enfant qui est albinos, eh ben, le personnel médical doit être capable de pouvoir l'orienter vers la cellule qui sera mise en place. Questionner la maman, que pensez-vous d'avoir eu un enfant albinos? Non, en tout cas, moi j'aime mon enfant, il n'y a pas de problème. Cette femme-là sera redirigée et dans la famille, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y aura une situation difficile, eh ben, cette cellule pourra maintenant prendre en charge et la femme et l'enfant, savoir comment pouvoir évoluer au regard des obstacles qu'il y en aura. Et même avoir la protection de l'État si ce fait que cette femme vit dans un milieu hostile à l'albinos. Donc, je pense que le ministère de la Santé peut nous aider en ce sens-là en mettant ce protocole dès la maternité et aussi suivre l'évolution, faire des statistiques, savoir quelles sont les familles qui ont des enfants albinos et pouvoir les suivre de temps en temps, un peu comme ça se fait à l'étranger où les services sociaux suivent l'évolution des enfants. Donc je pense que avec cette façon de faire les choses, on pourrait avoir une certaine évolution positive dans cette situation.
Est-ce qu'il y a des ONG ou des organisations de la société civile qui s'occupent de ce genre de situations au niveau familial?
Au niveau familial, je ne sais pas encore, mais il y a comme des ONG qui existent dans la promotion des personnes vivant avec albinisme, dans la protection, dans la sensibilisation. Il y a des ONG qui existent.
Services sociaux où, par exemple, lorsqu'une personne albinos a des problèmes, elle peut appeler pour...
Non, il n'y a pas de numéro vert, par exemple, pour le jusqu'à présent. Je ne connais pas de ONG. Puis cela demande beaucoup de moyens. Ça demande la mise en place de certains d'un fonds. Et je peux le dire qu'il y a la création d'un fonds de promotion pour des personnes vivant avec albinisme qui permettrait effectivement la mise en place de ce genre de structure de moyens qui permettrait d'avoir des numéros verts vers lesquels appeler pour obtenir de l'aide en cas de problème.
Bien, on va accueillir Orsène depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Zodi, et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Orsène.
Merci, monsieur Zodi, pour m'avoir donné la parole. Je parle beaucoup à Dieu, mais j'avais une question. Je ne sais pas si tu peux nous aider avec des explications. La première question était celle de savoir, je ne sais pas si les albinos, ils ont les aliments en quelque sorte ou une sorte de lotion qu'ils utilisent pour bien garder leur corps. Parce que nous voyons d'autres albinos avec forme. Il y a d'autres qui sont en forme. Je ne sais pas si cela est dit à quoi. Il y a en quelque sorte les aliments qu'ils peuvent manger ou bien il y a d'autres aliments qu'ils ne peuvent pas manger. L'invité peut nous aider à ce niveau-là. Et une deuxième question.
Pardon, Orsène, vous avez dit, qu'est-ce que vous avez remarqué chez ces personnes-là?
Oui, j'ai dit ceci. Je ne sais pas si ils ont les aliments en quelque sorte ou une sorte de lotion qu'ils utilisent pour bien garder leur corps. Parce que nous voyons, il y a d'autres albinos qui ont des blessures sur leur corps, mais il y a d'autres qui sont en bonne et due forme, sans problème, qui n'ont aucune blessure sur leur corps.
D'accord.
Et oui, la deuxième question pour ce qui était, c'est celle de savoir, est-ce que si des albinos ses maris, ils peuvent donner aussi naissance aux enfants albinos ou bien ils peuvent donner aux enfants non albinos. J'ai dit ça pour
nous. Bien, merci. On se bat pour avoir Yann Mambo, le coordonnateur de la structure, fièrement Dundu, mais il décroche pas son téléphone. On va continuer à l'appeler. Karel Mukenge nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà. Moi, je voulais plus intervenir par rapport à la charge émotionnelle.
Oui.
Généralement, nous rencontrons, parce que je suis moi-même atteint d'albinisme, je rencontre beaucoup de parents qui posent beaucoup de questions là-dessus. Et je me rends compte qu'il y a un déficit en termes d'information. Et ce déficit en termes d'information fait que les parents qui ont des enfants albinos sont difficiles à les accompagner dans à l'école, à l'université, au travail. Il faut qu'il y ait un accompagnement déjà au niveau des familles. Il faudrait que les parents disent à leurs enfants que tu es albinos, que quand tu t'exposes au soleil, tu peux avoir tel type de réaction, et surtout en rapport avec les superstitions qu'il y a couramment dans nos pays africains.
Bien, merci Karel. Donc il faut un accompagnement de la part des parents pour faire comprendre à leurs enfants, comme il a dit, ils ont un problème de peau et voilà, ils peuvent vivre avec. Bien, Monsieur Samuel Moulumba, à vous la parole.
Oui, je remercie, je salue Karel, que je connais aussi, et merci pour son intervention. Pour l'auditeur de Lumbashi, j'aimerais dire ceci à sa première question. En termes de nourriture, je n'ai pas fait d'études spéciales pour savoir si effectivement les nourritures interdites, mais on peut tout manger, mais s'il y a des nourritures qui vous donnent des allergies, vous devez les éviter comme toute personne normale. Il faut savoir que l'exposition au soleil de l'albinos va aboutir à un cancer de peau. C'est pourquoi les parents doivent prendre des précautions, et même l'albinos lui-même doit prendre des précautions pour ne pas s'exposer au soleil, puisqu'il n'a pas de mélanine, c'est cette substance naturelle qui le protège du soleil et des rayons du soleil, qui sont néfastes effectivement à la personne vivant avec albinisme. Raison pour laquelle vous voyez certains avec des plaies, certains qui vont même plus loin et provoquant des cancers, et c'est vraiment quelque chose de très douloureux et de très difficile à affronter. Donc, mangez ce que vous voulez, mangez normalement et mangez sainement. Prenez des fruits, des légumes, et je pense que ça ira. Pour sa deuxième question qui est un peu insolite, si deux personnes vivant avec albinisme se marient, vont-ils donner un enfant avec albinisme? Non, je ne pense pas, c'est tout à fait génétique. On peut être privé nous de mélanine, mais nos gènes ne sont pas privés de la capacité de donner de la mélanine. Donc si nos parents sont noirs, on aura des enfants noirs. Si les parents sont blancs, le fait d'être albinos, c'est juste un dérèglement génétique, mais ce n'est nullement pas une conséquence génétique. Donc je pense que le couple aura des enfants noirs ou blancs, ça dépend de quel ascendant ils ont eu. Donc c'est un peu ça.
Bien, on va accueillir Samuel Béa de Kananga, au Kasaï Central. Bonjour Samuel.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à l'invité. Ce n'est pas à Kananga, c'est à Kinshasa. Samuel Béa de Kinshasa.
Ah, pardon, vous êtes plutôt à Kinshasa. On vous écoute, Samuel.
Ah oui, merci pour la thématique du jour. Je voulais aussi avancer une idée en rapport avec la thématique du jour, en disant, comme nous avons observé aujourd'hui que la discrimination a eu lieu parce qu'on s'est retrouvé devant un enfant albinos. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'aider à ce qu'on puisse intervenir sur la prévention au lieu de commencer à condamner la discrimination. Mais il y a aussi lié à ce qu'on puisse maintenant faire à ce que l'on puisse prévenir l'apparition des enfants albinos, même si ce n'est pas à 100%, mais quand même on peut atteindre. Parce que ce n'est pas un tabou, soit que ce n'est pas un mauvais sort jeté dans la famille, ou soit que ce n'est pas que c'est de la sorcellerie non plus. Nous savons que c'est par la manque de mélanine sur leur corps qui colore la peau noire, les pigments qui colorent la peau noire, mais par manque de ces pigments, nous avons affaire à des enfants albinos ou les personnes atteintes d'albinisme.
Et d'après vous, comment prévenir? D'après vous, comment faire la prévention?
Oui, la prévention, ce que j'ai dit, il faut assez que les gens vivant avec l'albinisme puissent aussi entrer en contact avec les structures sanitaires, ou soit les gens de la santé. Il y a lieu à ce qu'on puisse revenir, dans le sens que il y a possibilité d'empêcher, parce que savoir qu'il y a un problème de chromosomes. Il y a les chromosomes
Bon, Samuel, c'est des choses que nous, on maîtrise pas très bien. Bon, peut-être les médecins pourront nous les dire. Merci d'avoir appelé. Serge, vous êtes à Kamina. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, c'est à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la discrimination à l'égard des albinos?
Oui, je suis en train de saluer cette thématique. La discrimination est presque partout. Quand je prends l'exemple ici chez nous, il y a un jour où j'étais à côté d'un albinos, une dame qui me dit non, il ne faut jamais le toucher dans la main, là en tout cas tu risques de gober une maladie. Moi je me disais non, c'est une personne qui est comme moi. La dame là m'avait condamné. Quand j'ai posé, puisque je me fréquentais souvent avec cet albinos là, quand je lui posais la question de savoir quelle est la lotion que tu utilises, elle me dira que non, souvent moi j'ai toujours utilisé l'huile de palme. Maintenant je voudrais seulement poser la question à l'invité. Est-ce que par rapport à la lotion, il y a des recommandations ou soit il y a une lotion qu'il faut utiliser proprement pour les albinos ou quoi? Et puis en termes de la loi, moi je vois qu'il fallait associer les psychologues pour les accompagner, que ça commence là-bas à Kinshasa et même dans des provinces. Peut-être on pourra respecter, puisqu'ici on est en train même de soutirer de l'eau dans les os et dans les yeux plutôt. Il y en a qui coupent quelques parties du corps pour en utiliser pour leur fin. Alors moi je voudrais qu'on puisse organiser des séminaires en province et jusque là à Kinshasa. Voilà un peu ma préoccupation que j'avais par rapport à cette dame.
Merci. Gauthier, vous êtes à Goma. Bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour à tout le monde. Jordi, moi j'aurais voulu préférer d'abord que vous fassiez appel à un dermatologue, c'est-à-dire à un médecin. C'est mieux pour qu'il puisse nous expliquer d'abord.
Aujourd'hui, on ne parle pas des aspects médicaux, on parle de la discrimination.
Ah.
C'est ça l'aspect...
Ah, la discrimination.
Oui, voilà. Okay. Pas merci des aspects médicaux aujourd'hui.
Bon, j'ai un petit témoignage, vous savez, hein. Moi, je voyage un peu. Il y a des points où on vend même les enfants albinos, c'est-à-dire tout au long de l'océan, surtout à Tanzanie. On avait attrapé au Congo vers Ariwara, Aru. Et on avait une maman avec un enfant albinos dans les sacs pour aller le vendre. En fait, il attrape l'argent. Il paraît qu'on les jette dans l'océan. Il paraît qu'il y a des dégris, il y a des fétiches, qu'on trouve de l'argent. Bon, c'est ce que je pouvais faire comme témoignage. Et en plus de cela,
oui, vous dites que c'est beaucoup plus en Tanzanie qu'il y a ce genre de pratiques. Hein.
Beaucoup en Tanzanie. On prend les enfants albinos, on les jette dans l'océan pour avoir l'argent.
Pour avoir l'argent.
Et je passe là-bas. En plus de cela, je voulais encourager mon ami qui est là comme invité, qu'il ne soit pas discriminé, qu'il ne sente pas qu'il est moins par rapport aux autres. D'ailleurs, moi, la plupart des albinos que je connais, ce sont des hommes intelligents, trop intelligents même. Hein? Qu'ils ne disent pas que nous sommes autres que les autres. S'il faut étudier, il faut étudier. S'il faut se marier, il faut se marier. Mais, parce que vous avez dit qu'on n'a pas fait appel à un médecin, mais croisement entre un albinos, ça c'est un phénotype. Mais à l'intérieur, il y a des génotypes, il y a déjà des gènes albinisme. Lorsqu'on fait des croisements entre albinos femmes et albinos hommes...
Bien, Gauthier, on fera appel à un médecin pour tous ces aspects-là, voilà, médical comme... vous l'avez dit, c'est dommage parce qu'il y a même des histoires selon lesquelles certaines femmes enceintes refusent même de serrer la main d'un albinos ou de voir un albinos, sinon risquent de donner naissance à des enfants aussi atteints d'albinisme. Samuel Moulumba, vous avez la parole.
Oui, vraiment, vous voyez que le problème est un problème sociétal vrai. Et vous savez que nous à l'Est, il y a aussi une certaine influence aussi de la culture tanzanienne. Nous avons une interaction entre la Tanzanie et l'Est du pays. Donc, ça ne m'étonne pas que certaines pratiques se retrouvent aussi de ce côté de la République démocratique du Congo. Je dirais, par rapport à notre ami qui a appelé à Kamina, par rapport à la lotion, je donnerai mon propre témoignage. Ma mère m'a piqué de l'huile de palme avec du talc, de la poudre, ce qui fait que ça a constitué comme une certaine protection lorsque je pouvais sortir. Bon, aujourd'hui, la science a évolué. Il y a aujourd'hui des crèmes anti-solaires pour protéger aussi la peau. Il y a quand même une certaine gamme. Si vous allez en pharmacie, vous consultez un dermatologue, on pourra vous prescrire plusieurs crèmes ou lotions à pouvoir appliquer. Et généralement, je préfère que ce soit à base naturelle, de plantes naturelles, que plutôt chimiques, puisque on sait un peu quelles sont les conséquences lorsqu'on utilise des produits faits de manière chimique. Bref, pour l'auditeur de Goma, je pense, je le remercie de nous encourager encore. Le regard que nous avons personnellement, c'est que nous ne sommes pas différents des autres. Nous voulons d'ailleurs que l'albinos comprenne qu'il a droit au chapitre dans ce qu'il fait dans la société congolaise. Nous avons étudié, nous avons été engagés, nous sommes dans le privé comme dans le public, c'est grâce aussi à cette société. Et nous voulons lui donner, lui rendre ce qu'elle nous a donné. En gros, c'est ça. Je ne suis pas partisan de la main tendue, des personnes qui pleurent tout le temps, voilà mon canon. Nous voulons juste qu'il y ait des cadres qui permettent de prévenir et de sanctionner ceux qui vont au-delà de ça. Mais en ce qui concerne l'albinos lui-même, lui redonner confiance en lui-même pour lui dire que mon frère, tu n'es pas différent des autres. La peau ou bien le manque de mélanine ne peut pas être un obstacle pour la réussite dans la vie. Et je crois que c'est comme ça que nous pourrons, et nos albinos et non albinos, avancer d'un même pas, évoluer dans cette société, cette belle nation que Dieu nous a donnée.
Bien, Samuel Moulumba, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes juge au tribunal des commerces de Matete. Vous êtes personne vivant.
Monsieur, je voudrais, si vous me le permettez, pour quelques secondes,
oui,
lancer vraiment un appel pathétique aux autorités de notre pays. D'abord au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première dame aussi qui a sa fondation, et à l'ensemble du gouvernement, de pouvoir prendre à cœur la situation des albinos. C'est vrai que nous n'avons pas tout le temps la capacité de passer dans les médias pour en parler, mais ce que vivent les personnes vivant avec albinisme est réel. Vraiment de pouvoir la main sur le cœur, de pouvoir s'attarder sur cette situation et de mettre des mécanismes en place pour pouvoir nous aider à pouvoir évoluer. Vous savez que le document, par exemple, que j'ai devant moi a été fait par l'Office français des personnes apatrides et réfugiées. Donc, ce sont des personnes extérieures qui viennent quand même nous aider à pouvoir prendre conscience de cette situation, alors que nous-mêmes dans le pays, nous n'avons pas encore pris conscience de cette situation. Je remercie aussi la radio Okapi qui vraiment a été un canal pour nous de communiquer cela à la nation congolaise, et nous pensons que avec cet appel, les personnes de bonne volonté, mais surtout les autorités de ce pays, pourront commencer à lever le pied pour pouvoir combattre la discrimination que subissent les personnes vivant avec albinisme. Je vous remercie.
Bien, merci Samuel Moulumba, juge au tribunal de commerce de Matete. Excellente journée et à la prochaine.